Classique, vous avez dit classique. Une émission présentée par Laure Schnapper.
Bonsoir à tous. Nous poursuivons notre série consacrée à Jacques Offenbach, bicentenaire oblige. Et j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir ce soir le grand historien du théâtre en France au XIXe siècle, Jean-Claude Dion, professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et à l'École pratique des hautes études et auteur de nombreux ouvrages qui ont été souvent primés. Jean-Claude Dion, bonsoir.
Bonsoir Laure, bonsoir aux éditeurs.
Vous avez écrit et dirigé plusieurs ouvrages sur l'histoire culturelle de la France, des spectacles sous le Second Empire, les théâtres parisiens, reçu de nombreux prix, je le disais, depuis votre thèse consacrée à Eugène Scribe, homme de théâtre et peut-être le principal librettiste du XIXe siècle, paru sous le titre « Eugène Scribe, la fortune et la liberté ». Vous avez été aussi chargé de mission au musée d'Orsay, rédigé des catalogues d'expositions. Mais on vous connaît surtout, pour votre immense monographie ou biographie consacrée à Offenbach en 2000 et publiée dans la collection Biographie chez Gallimard, qui compte près de 800 pages, 797 exactement, j'ai regardé encore, un monument qui manquait à la connaissance d'un compositeur qu'on croit connaître et qui reste très, non pas inconnu, mais méconnu, c'est-à-dire mal connu. Et puis vous venez de publier un nouvel ouvrage consacré à Offenbach en cette année 2019, donc le bicentenaire, je le répète, de la naissance d'Offenbach, qui est sorti seulement il y a quelques jours et qui porte ce joli titre « Monsieur Offenbach nous écrit, lettres au Figaro et autres propos » paru chez Actes Sud, Palazzetto Bruzane. Et puis, vous allez nous en parler, vous participez à de multiples festivités en cette année 2019, notamment un colloque, je crois, en juin. Là, je vous laisse la parole pour nous parler de tout ça.
Alors effectivement, ce bicentenaire est un moment important pour la connaissance d'Offenbach, parce que comme vous l'avez dit, cher Laure, c'est à la fois quelqu'un de très célèbre et tout le monde connaît Offenbach. Et d'ailleurs, dès qu'on prononce son nom, les sourires apparaissent. C'est quelqu'un qui fait du bien et sa musique est encore très présente, mais il est aussi très méconnu. Et donc, on peut espérer que cette année de bicentenaire va aider à mieux connaître ce musicien dont l'œuvre est d'une richesse incroyable. Et en l'occurrence, j'ai entamé en quelque sorte ce bicentenaire avec la publication de ce livre dont le but est vraiment de faire entendre la parole d'Offenbach, mais université oblige, des colloques seront organisés, un premier colloque qui sera organisé à Cologne et à Paris au mois de juin. La date anniversaire d'Offenbach, c'est le 20 juin donc 1819. Donc en juin 2019, on sera d'abord à Cologne et puis on fera le voyage qu'a fait Offenbach de Cologne à Paris, puisque ce symbole de l'esprit parisien, au départ, c'est un petit immigré juif allemand qui débarque à Paris sans un sou. C'est un destin à la Balzac, c'est une sorte de Rastignac, Offenbach. Donc il y aura ce colloque qui se déroulera pour la partie parisienne les 21 et 22 juin à l'Opéra Comique. Là aussi, c'est important parce que c'est la scène où Offenbach a toujours voulu être joué. Il y a eu des rapports compliqués. Le seul vrai triomphe qu'il y a eu, c'est les Contes d'Hoffmann, mais de façon posthume, quelques mois après sa mort. Donc faire ce colloque à l'Opéra Comique, symboliquement, c'était important. Et de la même façon, il me semblait amusant de faire entrer Offenbach à la Sorbonne. Donc avec mon ami et collègue Stéphane Lelièvre, au mois d'octobre, on fera un deuxième colloque à la Sorbonne, Offenbach dans le texte, en insistant justement sur ce lien entre la littérature, les textes et Offenbach, parce que c'est un grand musicien, mais c'est trop réducteur de ne voir en lui qu'un musicien. C'est aussi un homme de théâtre et un homme de culture au sens large.
Et donc votre livre, justement, on va en reparler tout à l'heure, montre bien cet aspect-là qui finalement était méconnu. Alors même, on le connaît mal aussi pour ses œuvres, puisque en fait, et vous le montrez bien dans votre superbe livre, on ne joue finalement toujours que les mêmes œuvres, c'est-à-dire Orphée aux Enfers, La vie parisienne, et puis sa dernière œuvre, donc posthume, Les Contes d'Hoffmann, mais très peu les autres. Or, il en a écrit beaucoup.
Alors Offenbach a un catalogue absolument gigantesque. Il a vraiment la force de ces grands créateurs du 19e siècle qui avaient une puissance de travail incroyable. On peut penser à Balzac, à Zola et à bien d'autres artistes. En l'occurrence, 110 ouvrages lyriques. Et donc, comme vous le rappelez, on joue un peu toujours les mêmes. D'ailleurs, cette année va permettre quand même de redécouvrir quelques ouvrages méconnus. Je signale à tous nos auditeurs une chose qui serait sortie. qui sera certainement assez passionnante, qui est une œuvre qui s'appelle Maître Péronilla, complètement inédite, dont il a lui-même écrit le livret et qui sera donné au Théâtre des Champs-Élysées début juin pour une seule soirée en version de concert. Mais courez aller voir ça, c'est vraiment une œuvre que j'ai le plaisir de connaître et qui est tout à fait remarquable. Donc une œuvre pléthorique, en plus une œuvre de tous les formats, puisque pour arriver à faire jouer sa musique, c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté pour se faire un nom et qui a en gros piétiné pendant 25 ans avant enfin de connaître le succès. Il a dû s'adapter à des contraintes législatives assez importantes qui régissaient le monde des théâtres. Et donc on a aussi bien des petites œuvres à deux ou trois personnages qui durent une demi-heure, trois quarts d'heure, que des féeries qui nécessitent un orchestre de 80 musiciens, une troupe de danseurs, de 100 danseurs, etc., et qui dure 5 heures. Donc il y a tous les formats, et on peut puiser dans Offenbach pour tous les types de spectacles, aussi bien des spectacles amateurs que des spectacles que seules quelques grandes maisons comme le Châtelet ou l'Opéra peuvent aujourd'hui remonter, vu les moyens nécessaires.
Oui, c'est intéressant d'ailleurs, parce que je pense à Strauss, c'est pareil. En fait, les musiciens à cette époque-là s'adaptaient absolument aux lieux et aux circonstances dans lesquelles les œuvres étaient jouées. Et aujourd'hui, on a du mal à comprendre ça.
Et au lieu d'avoir... Parce que quand on pense au XIXe siècle, on pense un peu à l'image du musicien romantique et on pense à Berlioz, par exemple, qui a un petit peu théorisé ce seul contre tous. Et alors qu'Offenbach est totalement... représentatif d'un musicien finalement commercial, je crois que le mot n'est pas du tout un gros mot, qui en fait s'adapte aux conditions et s'adapte notamment beaucoup à ce que veut le public. Et c'est pour ça que ses partitions, lorsque ça ne plaît pas, il coupe, il refait, il essaye autre chose. Donc il y a cette plasticité de cette offre, ce qui d'ailleurs contribue un peu à la difficulté de la remonter, parce que pour une même œuvre, on a plein de versions, comment on fait, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un répertoire vivant et qui est fait avant tout pour plaire et pour avoir du succès.
Alors vous nous avez apporté justement un disque, un extrait musical d'une œuvre qui n'est justement pas connue. La princesse de Trébizonde, qui date, je crois, de 1869. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, avant qu'on l'entende ?
Alors, en deux mots, la princesse de Trébizonde, elle est intéressante parce que c'est une œuvre qui met en scène les saltimbanques. Et Offenbach est quelqu'un qui a beaucoup mis en scène les gens de théâtre, les musiciens. Il y a un côté... mise en abîme très fort chez lui, parce que comme c'est un grand satiriste, il n'oublie pas que si on veut se moquer des autres, faut commencer par se moquer de soi-même, et donc il le fait très bien. Et donc cette princesse de Trébizonde, ça raconte des saltimbanques devenus par la grâce d'un billet de loterie châtelain, et donc toujours sur le contraste entre leur ancien métier et leur nouveau statut social. C'est une œuvre qui a été créée d'abord à Baden-Baden, dans ce très beau théâtre qui avait été ouvert avec Béatrice et Bénédicte de Berlioz quelques années auparavant, et qui ensuite a été créé à Paris, qui fait partie des grandes œuvres offenbachiennes, mais qui malheureusement n'est plus vraiment reprise. Et ce qu'on va entendre, c'est un magnifique chœur de chasseurs, puisqu'effectivement, lorsqu'ils sont châtelains, ils doivent aussi s'adapter aux pratiques des châtelains et faire de la chasse à cour. Et ce chœur, on va l'entendre chanter en tchèque. Alors, c'est pas par snobisme pour vous dire, voilà, je vous amène non pas la belle Hélène, mais du Trébizonde de chanter en tchèque. C'est parce que avec cette langue de tchèque magnifique, qui passe si bien en musique, on va voir la beauté de cette musique. Et puis aussi, on va voir, je pense, quelque chose qui ramène Offenbach à ses origines, et à ce monde germanique ou même de l'Europe centrale dont il est issu. Et ce qui est formidable chez Offenbach, c'est quelqu'un qui est venu en France, qui a choisi la France, qui s'est converti au catholicisme, mais qui n'a jamais rien oublié de ses identités précédentes. Et donc chez lui, tout marche par accumulation, et ça rend sa musique complètement exceptionnelle et unique, parce qu'effectivement, elle est le mélange de tous ses héritages, et il arrive à être syncrétique, à ne rien renier, et en même temps à créer quelque chose de neuf à partir de son parcours.
Très bien, alors nous entendons donc le chœur des chasseurs de la princesse de Trébizonde de Jacques Offenbach.
Oh.
Nous entendions Un cœur des chasseurs de la princesse de Trébizonde de Jacques Offenbach et nous l'entendions en compagnie de Jean-Claude Dion. Alors Jean-Claude Dion, vous venez, je le disais, de faire paraître un nouvel ouvrage sur Offenbach, plutôt d'Offenbach, puisque c'est lui qui, cette fois-ci, a la plume. Monsieur Offenbach nous écrit « Lettres au Figaro et autres propos » paru chez Actes Sud. Alors, on découvre, grâce à votre livre, la plume extraordinaire de Jacques Offenbach, qui était pourtant allemand d'origine, et sa langue natale, c'était quand même l'allemand.
Offenbach écrit un français absolument extraordinaire, et finalement, son français, sa qualité de français, c'est presque cette qualité qu'on ne retrouve que parfois chez certains étrangers qui ont appris le français et qui, par amour, sont parvenus à le maîtriser encore mieux que si c'était leur langue natale. Et c'est vrai qu'il y a cet amour je pense que si Offenbach a fait le choix de la France, à un moment donné, il a même pensé, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il avait eu du mal à percer et qu'il a même pensé partir aux États-Unis. Puis finalement, Dieu merci, il est resté à Paris. Mais s'il a persisté, c'est, je crois, par amour pour la langue française. Il y a une rencontre entre un personnage, une ville, parce que c'est vraiment le musicien de Paris, c'est bien l'auteur de la vie parisienne. Et puis c'est aussi cet amour pour la langue, amour poussé à un tel point que lorsqu'il va dans sa carrière écrire des œuvres pour Londres en anglais ou pour Vienne ou l'Allemagne en allemand, il ne pourra composer que sur un livret français et ensuite on traduira les paroles. C'est bien pour montrer qu'il y a ce lien entre sa musique et la langue française. Et donc j'avais vraiment envie de publier des textes de lui. Alors j'aurais pu faire un volume de correspondance, sauf que les lettres sont très dispersées, c'est compliqué. Et je me suis dit, quel biais trouver pour arriver quand même à faire lire du Offenbach. Et je me suis souvenu d'une chose que j'avais vue en préparant ma biographie, à savoir qu'Offenbach, en homme de médias absolument génial, parce qu'il a vraiment ce côté moderne et il est complètement en phase avec cette naissance de la France moderne qui caractérise le Second Empire et les débuts de la Troisième République, il avait fait une sorte d'alliance avec un journal qui a été créé un an avant que lui crée son propre théâtre, le Théâtre des Bouffes Parisiens, qui donc est créé en 1855, un journal donc créé en 1854 par un autre personnage assez extraordinaire qui est Hippolyte de Villemessant, un des pères du journalisme moderne, d'ailleurs dans ses meilleurs aspects comme dans ses pires, parce que c'est aussi la naissance de la presse people, des indiscrétions, de tout ce qu'on veut, mais en tout cas c'est un grand homme de presse, Villemessant. Donc les deux hommes étaient amis. Villemessant avait vendu d'ailleurs un terrain à Offenbach à Étretat pour qu'il puisse construire sa villa. Ils étaient amis et voisins de villégiature, si je puis dire. Et Villemessant a offert son journal à Offenbach pour qu'il devienne en quelque sorte le journal officiel des Bouffes Parisiens. Et durant donc toute la vie d'Offenbach, et même après le moment où il n'était plus directeur des Bouffes Parisiens, où il faisait sa carrière en solo, si je puis dire, il a continué à s'appuyer sur ce théâtre, sur ce journal, pardon, et il a publié donc à la fois toute une série de lettres ouvertes à Villemessant qui sont un moyen pour lui de prendre position par rapport à telle ou telle entreprise qu'il mène lorsqu'il par exemple, il entre à l'Opéra Comique, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, avec une pièce qui s'appelle Barkouf, qui va être un échec total. Et ben, le Figaro ne fait pas de critique, mais donne la parole à Offenbach pour qu'il se défende lui-même. Donc, pour la carrière d'Offenbach, le fait d'avoir ce journal comme appui était très important. Et ce qui est très amusant aussi, c'est que c'est l'histoire d'une amitié entre ces deux hommes. Et il joue d'ailleurs sur cet aspect, parce que on a des lettres où Offenbach dit, voilà, c'est une lettre complètement intime, et je suis sûr que vous allez la publier. Et aussi au moment d'Orphée aux Enfers, par exemple, qui est vraiment une œuvre essentielle pour la carrière d'Offenbach et qui a mal démarré, on va créer le buzz de façon complètement artificielle en faisant une fausse polémique avec Jules Janin, le grand critique du journal des débats. Et donc Offenbach va écrire des lettres très amusantes qu'on a dans le volume, où il agite en fait le chiffon rouge devant Janin, et Janin idiotement tombe dans le piège, et du coup tout le monde parle d'Orphée et la carrière de l'œuvre est lancée. Donc il y a vraiment ce fonctionnement médiatique absolument incroyable, et cette amitié, et ça permet de lire des textes assez incroyables.
D'où le titre d'ailleurs, Monsieur Offenbach nous écrit. Voilà. Hein, qui est comme si c'était le Figaro qui parlait là.
Exactement. Et alors du coup d'ailleurs, j'ai à la fois donc des textes d'Offenbach, et puis je me suis dit c'était bien aussi de mettre d'autres textes qui permettaient d'entendre la voix d'Offenbach, parce que voilà, c'était le but du jeu, c'était faire entendre Offenbach. Et donc il y a quelques, par exemple, Offenbach aimait beaucoup les jeux de mots, donc il y a quelques jeux de mots qui sont comme ça repris dans le volume. Vous verrez qu'ils sont quand même pas d'une qualité extrême. Aussi, quand Offenbach fait des grandes fêtes chez lui, Le Figaro publie le programme de la fête et il y a des textes vraiment très drôles. C'est quand même des fêtes où il y a Gustave Doré, Bizet, Edmond Abou, enfin des choses.
Qui.
Voilà, pas n'importe qui exactement. Offenbach prépublie en quelque sorte tout texte important qu'il va publier même ailleurs dans Le Figaro. Et par exemple, à la fin de sa vie, il publie les préfaces d'un recueil d'articles, Le Monsieur de l'Orchestre, où il a toute une réflexion sur la façon dont les œuvres s'enchaînent, comment on peut gérer ça. Et c'est un très très beau texte qui est publié là aussi dans Le Figaro en avant-première. Quand il part aux États-Unis, là aussi, il donne ses impressions américaines en exclusivité au Figaro. Donc bref, c'est une sorte d'autobiographie d'Offenbach à travers ses textes. Villemessant a aussi, dans ses mémoires, beaucoup parlé d'Offenbach, et comme il a pré-publié ses mémoires dans son journal, j'ai repris ses textes, et c'est toute une histoire d'une amitié entre deux hommes, entre un journal et un compositeur, et voilà, je crois que c'est, en plus, Offenbach écrit tellement bien, et on voit qu'il est tel que sa musique est, c'est-à-dire qu'il est toujours très spirituel, très amusant. Quand il fait sa publicité, il met entre parenthèses style de réclame, parce que voilà, il se moque de ce qu'il est en train de faire, et puis il fait quand même une réclame. J'ai voulu faire un livre aussi, et les premières personnes qui ont pu le lire m'ont donné ce retour, qui fait du bien. Voilà, je veux que la parole d'Offenbach, à côté de sa musique, nous aide un peu à supporter cette période quand même très compliquée qu'on vit tous. Et voilà, le bicentenaire Offenbach, c'est aussi quelque chose qui doit nous aider à avoir confiance et à avancer.
Beau programme. Alors, pour le compléter, vous nous avez apporté une œuvre, là encore, pas connue du tout, où justement le texte est important, hein, les couplets du facteur rural de l'œuvre qui s'appelle « Le château à Toto ».
Alors, le château à Toto, c'est en quelque sorte la suite de la vie parisienne. Ça a été créé aussi au théâtre du Palais Royal, qui n'était pas un théâtre musical au départ, c'était le théâtre de la Biche. D'ailleurs, la Biche n'était pas contente du tout de voir Offenbach venir sur ses plates-bandes. Et c'est une œuvre créée en mai 1868, mais c'est déjà un peu l'esprit de mai 68, un siècle avant, puisqu'en fait, c'est l'histoire de on pourrait appeler ça des bobos du Second Empire, qui viennent en Normandie, parce qu'il y a une histoire de château à vendre, et le fameux château Toto, c'est Hector de la Roche-Trompette, dit Toto pour les intimes. Et donc, ils viennent, et c'est la confrontation entre les paysans et ces gens du boulevard. C'est vraiment une œuvre très amusante. Et ce qu'on va entendre, ces couplets de facteurs ruraux, c'est intéressant parce que on voit là aussi comment Offenbach, dans ses couplets, côtoie le café-concert qui est en train de se développer énormément et fait en fait un morceau avec des passages chantés et des passages parlés, plutôt amusant quand même. Donc c'est aussi pour illustrer l'importance du texte. Et c'est vrai que quand on remonte de nos jours du Offenbach, souvent les textes sont réécrits par les metteurs en scène, guillemets, pour toucher des droits d'auteur, mais ça personne nous a entendu. Et c'est un peu gênant parce que notamment quand le texte est signé Meillac et Alivi, comme c'est le cas pour le château à Toto, c'est de très grande qualité et ça vaut du labiche.
Absolument.
Je suis le facteur rural, un bel état, mais c'est égal. Il faut se donner du mal quand on est facteur rural. À Paris, mes brillants confrères font leurs courses en omnibus. Mais ici, dans nos humbles sphères, nous les faisons comme pénibus. Et c'est une grave question de savoir si pour marcher beaucoup, il vaut mieux avoir de grandes jambes que de petites. Au premier abord, il semble qu'il vaut mieux en avoir de grandes, parce qu'avec de grandes jambes, on fait de grandes enjambées. Avec des petites jambes, on fait des petites enjambées, mais on n'en fait plus. Alors ça revient à peu près au même. Ça, du reste, ce sont des questions pour les savants. Ça ne me regarde pas, moi, je ne suis pas savant. Je suis le facteur rural, un bel état, mais c'est égal. Il faut se donner du mal quand on est facteur rural. Avec les lettres, on s'en tire, mais ce qui me rend presque fou, messieurs, je m'en vais vous le dire, ce sont les journaux à un sou. Il y en a
de ces journaux, il y en a. Tous les jours, on en invente de nouveaux, avec des titres. Ainsi, dernièrement, j'ai porté à une jeune dame un prospectus ainsi conçu. Nous venons de fonder un nouveau journal qui s'appelle Le Fouet. Vous le recevrez tous les deux jours. La jeune dame, elle a rougi. Et le mari qui était là, il s'est fâché contre moi. Il a eu tort. Est-ce que cela me regardait, moi? On me dit de porter cela. Je porte. Je suis pas journaliste, moi. Et je suis le facteur rural. Un bel état, mais c'est égal. Il faut se donner du mal quand on est facteur rural. Par bonheur, on nous vient en aide. Il est question de donner un vélocipède. Gloire, gloire à l'administration. Oui, des vélocipèdes. Et cela, on peut dire que c'est une idée heureuse. Il n'y a rien de plus distingué pour le moment. Puis c'est très commode. Ah, par exemple, ce qui est difficile, c'est de monter dessus. Mais une fois monté dessus, ce qui est difficile, c'est d'en descendre. Et puis une fois lancé, je bête là. Il paraît que ça ne s'arrête jamais. Ainsi, dernièrement, un caissier de chez nous est parti sur un vélocipède. Eh bien, il n'a pu s'arrêter qu'à New York. Quand je dis qu'il s'est arrêté, je me trompe. Non, on l'a arrêté. Enfin, c'est du moins ce qu'on m'a raconté. Je vais aller voir. Ouais. Tout cela ne me regarde pas, moi. Hein? Parce que moi, je suis le facteur rural. Un bel état, mais c'est égal. Il faut se donner du mal quand on est facteur rural.
Alors nous entendions un extrait du Château à Toto d'Offenbach, les couplets du facteur rural. Alors on voit bien, Jean-Claude Dion, avec cet extrait, comment l'importance du texte dans ces opérettes ou ces opéras bouffes, je ne sais pas comment le qualifier.
C'est toujours compliqué parce qu'effectivement, les grandes œuvres d'Offenbach, c'est des opéras bouffes. Ce qu'il appelle opérette, c'est vraiment des œuvres en un acte, des petits opéras. D'accord. Mais c'est vrai que le genre général, on l'a appelé l'opérette.
L'opéra... Ah oui. Donc là, en fait, le Château à Toto, c'est quoi alors?
Château à Toto, c'est un opéra bouffe.
C'est un opéra bouffe, d'accord. Et alors là, on voit bien dans cet extrait que il y a des parties donc parlées, donc évidemment là le texte prend toute sa dimension. Et puis il y a un refrain musical, mais où finalement la musique est là pour illustrer ou accompagner le texte, et que vraiment on se rend compte vraiment que c'est le texte qui prime. Quand
oui,
même.
Et donc du coup, ce qu'on se rend compte, c'est qu'Offenbach, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut finir, Offenbach est un homme de théâtre. Hein. Il a été aussi directeur, il a donc fondé les Bouffes Parisiens, il a aussi dirigé à un moment le Théâtre de la Gaîté, où il a produit des spectacles absolument mirifiques. D'ailleurs, il a très vite fait faillite. Mais par exemple, la nouvelle version d'Orphée aux Enfers qu'il monte en 1964 est tellement belle que elle émerveille un certain Stéphane Mallarmé qui a écrit des pages merveilleuses sur ce spectacle. Donc c'est un homme de médias, c'est un homme de théâtre, c'est un homme de culture, c'est quelqu'un qui sait parler au public et qui sait aussi constituer des troupes, parce qu'on imagine bien que l'extrait qu'on vient d'entendre, et qui est d'ailleurs tiré d'un enregistrement de l'ORTF, parce que l'ORTF a beaucoup enregistré dans les années 50-60 ce répertoire, là c'était Dominique Tirmont qu'on entendait avec toute cette verve, c'est vraiment toujours un répertoire fait pour les artistes, écrit de... C'est du sur-mesure par rapport au créateur des rôles, mais c'est quelque chose de très valorisant si on comprend dans quel état d'esprit le monter. Mais du coup, c'est des objets très compliqués. On croit que c'est simple, mais non, c'est horriblement compliqué. Mmh. Il faut être, pour monter de Offenbach, il faut être homme de théâtre, connaître la musique, régler bien cet équilibre entre parole et chanté. Et c'est vrai que il faut en tout cas avoir beaucoup de respect et de considération pour ce répertoire et pas se dire, oh non, c'est de l'opérette, on va pouvoir monter ça très vite. Et heureusement, de plus en plus, il y a vraiment de très bons metteurs en scène qui s'emparent de ce répertoire et qui font des beaux spectacles, et je pense qu'on en aura en 2019.
Eh ben, j'espère. En tout cas, merci. Je rappelle le titre de votre nouveau livre. Monsieur Offenbach nous écrit « Lettres au Figaro et autres propos » paru chez Actes Sud. Merci de votre présence ce soir. Je rappelle que vous pouvez réentendre cette émission au podcast sur le site de Judaïque FM. Et je propose que nous nous quittions en musique, bien sûr, encore avec Offenbach. Et cette fois-ci, c'est Jean-Claude Dion, ce n'est pas vraiment du théâtre, puisque c'est un ballet, c'est le seul ballet qu'il a écrit, le ballet Le Papillon. et nous entendrons la valse des rayons.
Une très belle valse qui d'ailleurs ensuite a été reprise à la Belle Époque pour devenir ce qu'on appelle une valse chaloupée, chantée par Mistinguette, parce qu'effectivement tout ce répertoire ensuite a eu des vies successives après même la fin de la carrière d'Offenbach.
Alors merci encore et nous nous quittons avec la valse des rayons du ballet Le Papillon d'Offenbach. Bonsoir à tous.